nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce texte, mes frères, évidemment, est d'abord très beau parce qu'il montre que le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, a accepté, a condescendu, venant dans la chair, à se mettre pied à pied avec Satan, et, si j'ose dire, à laisser au vestiaire, l'expression est mal choisie, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, à laisser au vestiaire sa divinité pour combattre au même niveau que cet ange terrible. C'est donc très beau en ce qui concerne l'instruction que cet évangile nous donne à propos du Seigneur. Mais évidemment, et j'en viens directement à cette deuxième considération, ce qui nous intéresse dans cet évangile, c'est la leçon de combat au corps à corps avec le diable que notre Seigneur Jésus-Christ nous offre. Il y a, vous le savez, une tentation récurrente dans notre bonne vieille race humaine à toujours chercher à devenir plus. Plus qu'elle devrait être, plus qu'elle n'est, il y a cette tentation à s'enfatuer de soi et à vouloir dépasser les bornes, les limites sans cesse. Il y a aujourd'hui, depuis quelques décennies, un mouvement qui a pris pour nom transhumanisme. Transhumanisme, alors on a changé le mot de transhumanisme en humanity plus parce que c'est plus vendeur. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de permettre à l'être humain, à l'aide du recours aux sciences les plus perfectionnées, aux nanotechnologies et autres sciences biologiques ou biotechnologiques, de pousser sa propre condition au-delà des bornes qui lui sont données par nature, de sorte qu'il devienne une sorte de mélange d'hommes et de machines, une sorte de surhomme, en quelque sorte. Cette tentation-là est récurrente, vous le savez, et on cherche sans cesse de quoi remédier à cette tentation. Dans le fond de la sagesse humaine, que trouve-t-on? On trouve par exemple deux récits de la mythologie grecque, le récit de Prométhée et celui d'Icare, Prométhée étant ce titan qui, une sorte de divinité antérieure au dieu de l'Olympe, peu importe, je n'entre pas dans les détails, Prométhée est un titan qui a eu l'idée saugrenue de créer les êtres humains à partir de la glaise et de voler le feu de l'Olympe, c'est-à-dire la sagesse divine, pour la communiquer à ses créatures faites à partir de la glaise. Ce pauvre Prométhée n'a pas eu l'heure de plaire à Zeus, évidemment. Zeus l'a condamné à être attaché à une montagne et à ce qu'un vautour vienne en permanence lui ronger le foie. Ça lui apprendra, à ce bon titan, à créer la race humaine d'une part et à lui donner la science divine d'autre part. Et pour punir la race humaine d'avoir accepté ce cadeau insigne et d'avoir ainsi laissé parler son orgueil, eh bien, Zeus retire la sagesse divine aux hommes, si bien qu'il erre depuis lors dans l'ignorance, et nous en faisons tous les jours l'expérience, notamment lorsque nous sommes en classe et que les cours qui nous sont assénés rentrent avec tant de difficultés. La deuxième leçon de la mythologie grecque, c'est évidemment cette histoire d'Icare. Icare qui est le fils de l'architecte Dédale, Dédale qui a construit ce labyrinthe formidable où se trouve enfermé le Minotaure, et voilà que, peu importe les péripéties, voilà que le père et le fils Dédale et son fils Icare sont condamnés à errer dans le labyrinthe sans trouver l'issue de sortie et à se faire un jour ou l'autre déchiqueté par le Minotaure affamé. Heureusement, le génial Dédale, le père donc, décide de façonner des ailes avec les plumes des différents rapaces qui ont été mangés par le Minotaure, et à sceller ses plumes avec de la cire, il arrive à faire des ailes à taille humaine, si bien que le père et le fils, Dédale et Icare, s'en vont du labyrinthe par la seule voie possible, c'est-à-dire par en haut. Mais le père avait eu la sagesse d'expliquer à son fils qu'il ne lui fallait pas monter trop haut dans les cieux et se rapprocher du soleil, sous peine évidemment que cette cire se ramollissant, les ailes ne tombent et qu'il s'effondre dans la mer. Le fils grisé qu'il est par ce vol incroyable, et on peut le comprendre, imaginez ce que ce serait que d'avoir une paire d'ailes subitement, eh bien, se laissant griser, s'enivre de cela, se rapproche du soleil, arrive ce qui devait arriver, il s'effondre dans la mer qui désormais porte son nom. Voilà donc deux récits de la mythologie grecque, c'est-à-dire en réalité de la sagesse humaine, qui sont comme des mises en garde contre cette tentation orgueilleuse qu'a l'homme de connaître toute vérité et à l'aide de ses petits poignets et de sa technique, si puissante et si belle qu'elle soit et si légitime, qu'il se laisse aller à se prendre pour un dieu. Alors, cette sagesse humaine est très belle elle nous donne un enseignement effectivement tout à fait précieux à celui qui n'a pas la foi comme à celui qui a la foi, c'est son avantage, cette sagesse humaine qui est universelle. Elle explique que l'être humain est limité et qu'il doit accepter cette condition limitée. Seulement, cette sagesse humaine a également quelque chose de terrible, c'est qu'elle condamne en quelque sorte l'être humain à rester dans les limites de sa condition native. Elle ne prend pas en compte le fait que, si évidemment il est orgueilleux de vouloir devenir une sorte de cyborg, mélange d'hommes et de robots, d'avoir une intelligence artificielle qui multiplie par centaines de millions la capacité humaine d'emblée, eh bien, cette aspiration profonde qui gît au fond de l'être humain, de dépasser sa propre mesure, cette aspiration-là, elle est bonne. C'est ce que ne comprend pas la mythologie grecque, pas plus que la sagesse humaine. Il y a, au fond du cœur de l'être humain, un désir, une aspiration à être plus que ce qu'il n'est par sa nature propre, qu'il ne doit pas étouffer et qui ne saurait être condamné. Ça, c'est une leçon, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, on peut décrier le transhumanisme, on peut évidemment mettre en garde l'être humain contre toutes ces tentations de se prendre pour ce qu'il n'est pas. En revanche, il faut faire attention de ne pas éradiquer cette aspiration profonde qu'a l'être humain d'être plus que ce qu'il doit être. Évidemment, ce n'est pas dans la sagesse humaine qu'on trouve l'explication de toutes choses, et donc la raison de cela, c'est dans la révélation divine. Il a fallu que Dieu apprenne aux hommes d'où cela lui venait. Genèse 1, faisons l'homme à notre image et comme à notre ressemblance. L'homme, étant à l'image de Dieu, a un potentiel infini. L'homme est fait pour de plus en plus être conformé à son Créateur. Et cela, aucune sagesse humaine ne peut en rendre compte. Il y a évidemment ce Genèse 3, troisième chapitre de la Genèse, qui nous explique que malheureusement, Satan est venu influencer l'homme et la femme. Il y a un parallèle évidemment entre ce récit du péché originel et le récit d'aujourd'hui, avec cette tentation au désert. C'est un nouvel Adam qui combat toujours le serpent antique et qui entend résonner exactement le même refrain, sauf que cette fois-ci, il ne tombe pas dans le panneau. Mais en Genèse 3, donc, dans le récit du péché originel, on nous fait clairement comprendre que le tentateur qui a utilisé cette aspiration profonde et légitime qui gît dans le cœur de l'homme, de devenir plus que ce qu'il n'est, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal, toutes choses légitimes, mes frères. En réalité, le seul problème, c'est que le serpent a incité l'homme à en faire selon sa propre caboche et à obtenir par un acte magique, croqué dans un fruit, instantanément, sans effort, et surtout sans Dieu, à parvenir à cette fin, encore une fois, légitime. Il y a, mes frères, dans ce combat de Jésus face au serpent, la réponse adéquate à cette tentation diabolique. Nous n'avons pas, évidemment, la possibilité de parvenir à notre fin, c'est-à-dire à dépasser notre propre condition humaine par nos propres forces. La seule solution que nous ayons, c'est de recourir à la parole de Dieu. Et plus précisément, de recourir à la vie divine qui nous est offerte. Et par la parole, c'est-à-dire par la révélation, et par les sacrements, qui sont quoi sinon la parole faite chair qui se prolonge dans les matières sacramentelles. Nous avons donc à recourir à Dieu lui-même qui vient en nous, et là, qui brise en quelque sorte les chaînes qui nous enferment dans notre seule condition humaine pour nous faire accéder à plus que ce que nous devons être. C'est ce qu'avait parfaitement compris Dante, par exemple. Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, utilise le terme transhumana ou transhumana. L'homme est fait pour être plus qu'un homme, pour transhumaner, mais pas du tout dans le sens où l'entendent nos spécialistes de biotechnologie actuelle, dans un sens tout à fait divin, dans le sens de l'Écriture. Nous sommes faits pour devenir des dieux. Nous sommes faits pour que la Trinité Sainte habite en nous. Elle le fait déjà depuis notre baptême, et tant que nous ne posons pas d'actes graves contradictoires, elle demeure en nous. N'est-ce pas là quelque chose qui dépasse totalement notre condition humaine? Et encore, n'avons-nous vu que peu de choses par cela, car en réalité, dans l'au-delà, nous sommes appelés à être face à face avec cette Trinité qui sera en même temps en nous. Nous serons en quelque sorte immergés dans la Trinité Sainte. Si ce n'est pas une déification, une divinisation, si cela ne dépasse pas infiniment la capacité de notre condition native, je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes donc faits pour être déifiés et il faut utiliser les moyens adéquats pour cela. C'est la fameuse métanoïa, cette métamorphose dont parle saint Paul en permanence. C'est sur cette métanoïa-là que je voudrais attirer votre attention au cours des semaines qui viennent, en quelque sorte de faire des sermons de carême qui se suivent les uns les autres, parce que la théologie de saint Paul sur cette transformation, sur cette déification, est le fin mot de la morale chrétienne. Notre morale chrétienne ne consiste pas à rester dans les clous, à nous faire mal de temps à autre pour essayer de nous souvenir que nous ne sommes pas grand-chose, à se focaliser sur ce que je vais dire tout à l'heure à ceux qui n'ont pas encore reçu les cendres. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Il ne s'agit pas, évidemment, dans la morale chrétienne, d'en rester à cette simple étape, mais il s'agit tout simplement d'oser répondre au projet de Dieu sur nous, de déification. C'est la seule alternative à toutes ces tentations actuelles qui sont particulièrement excitées dans la société scientifique dans laquelle nous nous trouvons, qui est totalement débridée de toute déontologie, de toute perspective philosophique authentique ou théologique a fortiori. C'est la seule alternative qui rendra l'homme heureux. Mes frères, c'est le but de notre carême, que nous soyons déifiés un peu plus chaque jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.